France Inter.
À la une de ce 13h, la finance au service de la préservation des océans. Ouverture ce matin à Monaco du Forum de la finance et de l'économie bleue. En préambule de la conférence des Nations Unies demain sur les océans, elle débutera à Nice. Nous serons en direct de Monaco. Il reste 10 jours aux partenaires sociaux réunis en conclave pour proposer leurs solutions sur l'avenir des retraites. Au lendemain de la publication d'un rapport du COR qui préconise de reculer l'âge de la retraite, nous recevrons dans ce journal la secrétaire nationale CFE-CGC, Christelle Thiéfine. Elle siège également au Conseil d'orientation des retraites. Une trottinette électrique à l'origine de l'incendie qui a fait 4 morts dans un immeuble de Reims la nuit de jeudi à vendredi. Vous entendrez le procureur de Reims. Et puis nous serons à Roland-Garros, à moins de 2 heures de la finale dames entre la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka, et sa dauphine, l'américaine Coco Gauff. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos du retour en grâce du flipper, et pas seulement chez les particuliers.
Il y a pas mal de cafetiers qui m'appellent pour avoir un flipper dans leur bar. Il y a quelque temps, les flippers revenaient essentiellement chez les particuliers, mais la tendance maintenant est de retrouver les flippers dans les cafés.
Et après ce journal, le magazine Secret d'Info, magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien Eric, je ne sais pas si vous avez vu le film Darkwater, inspiré de faits réels sur le combat d'un avocat américain contre un géant de la chimie Dupont devenu Chemours. Mais c'est cette histoire que nous allons vous raconter parce que après s'être installé en France, dans l'Oise, Chemours s'apprête à plier bagage en laissant derrière elle une contamination au PFAS, les polluants éternels.
Et on revisionnera donc au passage le film Darkwater. À tout à l'heure Benoît. Le temps de ce samedi, Céline Dacoste. Le ciel reste bien mitigé sur la moitié nord.
Oui, avec même un risque orageux entre la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Le mariage de la finance et de la protection des océans, le forum de la finance et de l'économie bleue. Il s'est ouvert ce matin à Monaco, avant la conférence des Nations Unies sur les océans qui s'ouvrira lundi à Nice. Au cœur de ces deux réunions, de cette série de réunions, il y a toujours la même équation. Comment exploiter les ressources marines tout en préservant ce milieu? Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Monaco. L'océan peut donc nous rapporter beaucoup, mais à condition de le maintenir en bonne santé. C'est donc sur cette double injonction que s'est ouvert ce matin le sommet.
Oui, nous avons entre les mains un terrain de jeu immense, rempli d'opportunités mais fragile, a rappelé en ouverture Pascal Lamy, le co-directeur de ce forum pour la finance et l'économie bleue.
L'océan recèle une formidable quantité d'opportunités économiques et financières, d'une valeur estimée à quelque 25 000 milliards de dollars. Mais cette valeur ne peut et ne pourra se réaliser qu'à une condition. Que nous cessions de la dilapider en contribuant à la dégradation de nos systèmes marins et aquatiques.
Et en effet, l'océan est malmené par le réchauffement climatique, la surpêche, la pollution. Ce qu'il faut d'abord financer, c'est sa protection, car la seule montée du niveau de la mer provoque des dégâts tels que les assurances ont désormais du mal à les couvrir, a souligné Christine Lagarde, la présidente de la BCE.
Let's make no mistake.
Ne commettons pas d'erreur. L'adaptation, la préparation, ça va avoir un coût.
According to UN assessment,
selon les estimations des Nations Unies, ce coût pourrait atteindre des centaines de milliards de dollars d'ici la moitié du siècle.
But the cost of inaction,
mais le coût de l'inaction would be far higher. Sera bien plus élevé.
Pour éviter cette situation, il faut d'abord sauver les écosystèmes qui nous protègent, les mangroves, les récifs coralliens. Parmi les pistes évoquées, des taxes sur la plongée, le tourisme, le transport maritime carboné et la création d'aires marines protégées. 30% de l'océan sous protection d'ici 5 ans, c'est précisément l'un des engagements à prendre à l'UNOC, a insisté José Suarez dos Santos, président de la Fondation Océano Azul.
On joue juste à un jeu parce que nous savons tous ce que l'on doit faire. Si on n'obtient pas un accord tous ensemble à UNOC, si on ne signe pas tous ces traités négociés ces dernières années, je pense qu'il sera très difficile de mobiliser tous ces capitaux privés.
Pour motiver les financiers, il faut garantir le succès de leurs investissements. On sait faire, a répondu la représentante de l'Union internationale pour la conservation de la nature, à condition d'impliquer les communautés locales et la réalité du terrain.
Sophie Becherel, en direct de Monaco, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Lundi, donc, à Nice, s'ouvrira la conférence des Nations Unies sur les océans jusqu'à vendredi. Cette conférence réunira une cinquantaine de chefs d'État et plus de 15 000 scientifiques pour préparer un accord. Un accord donc sur la protection des océans. Emmanuel Macron sera d'ailleurs ce week-end à Monaco et un peu plus tard, il se rendra le 15 juin en visite officielle au Groenland. C'est une façon pour la France de marquer son soutien à ce territoire autonome du Danemark convoité par Donald Trump. Le président français sera d'ailleurs le premier chef d'État à se rendre au Danemark, au Groenland, depuis les menaces d'annexion du président américain. Comment sauver le système de retraite en France? Hier, le Conseil d'orientation des retraites a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme car la trajectoire est toujours déficitaire et sans réforme, dit le corps, le déficit en 2030 atteindra 6,6 milliards d'euros. La question est de savoir quelle réforme sortira du chapeau. Les syndicats y réfléchissent depuis 3 mois à la demande de François Bayrou et à 10 jours de la fin de ce conclave. Dans quel état d'esprit sont les participants? On en parle à présent avec notre invitée. Bonjour Christelle Thiéphine.
Bonjour, merci Eric Delvaux de votre invitation.
Avec plaisir, je précise que vous êtes secrétaire nationale CFE-CGC à la protection sociale. Vous faites partie de celles et ceux qui négocient jusqu'au 17 juin. Je précise aussi que vous faites également partie du Conseil d'orientation des retraites. Alors pour ramener les comptes à l'équilibre, le corps privilégie de reculer encore l'âge de départ à la retraite. C'est aussi ce que voudrait d'ailleurs le gouvernement, rallonger le temps de travail. Ce n'est pas votre tasse de thé hein, à la CFE-CGC. Est-ce que ça reste aujourd'hui encore une ligne infranchissable?
Oui, écoutez, c'est pas possible parce que, en fait, la réforme de 2023 a démontré que justement ce n'était pas la solution puisque nous avons pris 2 ans de plus et qu'on voit bien que ça n'équilibre toujours pas les finances de nos régimes de retraite. Donc la solution est ailleurs.
D'ailleurs, comment expliquez-vous que malgré les réformes des retraites de 2023, l'objectif annoncé de ramener les comptes à l'équilibre en 2030, ça reste aujourd'hui encore impossible à atteindre?
En fait, ce que démontre à la fois le rapport du corps et ce qui a été fait aussi dans le rapport de la Cour des comptes, tous disent la même chose, c'est que les dépenses des retraites sont stables dans le temps, même quand on projette très très loin, à 50 ans. Par contre, notre problématique, c'est une problématique de ressources, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans nos régimes de retraite, qui sont faibles, trop faibles, et qui continuent à descendre, et les projections nous emmène vers une situation, une projection économique qui baisse sans cesse. Mmh. Et c'est ça le sujet, en fait, de fond.
Hein. Et donc, que prône la CFE-CGC si on veut respecter la lettre de cadrage de Matignon hein, pour un retour à l'équilibre en 2030?
Eh bien, écoutez, ce que nous, on prône, c'est d'augmenter le taux d'emploi. Hein, donc, c'est bien là qu'il faut trouver des solutions, notamment le taux d'emploi des seniors, mais aussi celui des jeunes et celui des femmes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, pour améliorer les ressources, c'est vraiment la qualité de l'emploi, tirer l'emploi vers le haut, c'est-à-dire que ça fera plus de cotisations avec des salaires qui sont plus élevés. Et c'est bien ça l'avenir, parce que ça aura un effet bénéfique, on va dire immédiat, sur les finances et sur les cotisations, mais aussi sur la qualité économique de notre pays. Mmh. Tirer vers le haut les salaires, les compétences, c'est avoir plus d'emplois, plus d'innovation, plus de technologie et finalement répondre aux enjeux de réindustrialisation.
Et dans le
conclave, vous voyez, nous, on fait vraiment un pas de côté et c'est complètement différent que de dire simplement il faut reporter l'âge légal de départ en retraite qui est toute symbolique en fait, hein, qui n'a pas de réalité. Parce qu'en plus, ça n'a pas de réalité.
Eh bien, merci. Une dernière question, mais rapidement, par oui ou par non, dans ce conclave, vous avez 10 jours encore, les partenaires sociaux, pour trouver une solution. Est-ce que l'ambiance continue d'être un petit peu... est-ce que vous continuez de vous déchirer ou y a-t-il un peu de fumée blanche qui apparaît?
Alors, écoutez, en fait, dans ce conclave, on ne se déchire pas. Par contre, depuis hier, nous sommes effectivement rentrés dans le dur de la négociation. Ça, c'est normal. Et donc on espère les uns et les autres pouvoir trouver des solutions et qui sont loin de celles du corps entre partenaires sociaux et j'espère qu'on arrivera à aboutir effectivement.
Merci Christelle Thiéphine, secrétaire nationale CFE-CGC à la protection sociale. La collecte des médicaments non utilisés, elle a atteint des records en France. 77% des médicaments non utilisés l'année dernière ont été rapportés en pharmacie, c'est ce que dit Cyclamed qui est à l'origine de cette collecte. Le réflexe Cyclamed, c'était d'ailleurs le slogan de la campagne de sensibilisation. Un réflexe qui est donc désormais bien ancré dans l'esprit des Français, Nina Sobetski.
Adeline sort tout juste de sa pharmacie de quartier où elle rapporte au moins une fois par an les médicaments qu'elle n'utilise plus.
On a bien compris qu'il ne fallait pas mettre tout ça dans une poubelle classique. Ces médicaments, après, ça va polluer les sols.
Préserver l'environnement, c'est justement la première motivation des Français pour apporter leurs médicaments en pharmacie. 82% déclarent le faire au moins une fois par an. La quantité de médicaments non utilisés dans les foyers a donc été divisée par deux en une dizaine d'années, grâce aussi aux efforts pour sensibiliser à un usage plus raisonné des médicaments, comme dans la pharmacie d'Emmanuel Cordier à Paris.
Je leur pose toujours la question, savoir par exemple quand ils prescrivent du Doliprane, est-ce que vous avez besoin de toutes les boîtes, combien réellement prenez-vous par jour ?
C'est en fait notre rapport aux médicaments qui a changé ces dernières années, selon Thierry Moreau-Defarge, président du conseil d'administration de Cyclamed, qui pointe le rôle crucial des médecins.
Sur une ordonnance, on a au moins une ligne de prescription en moins depuis une dizaine d'années. Avant, on avait 5 à 6 produits sur une ordonnance, maintenant on a plutôt 4 à 5. On a rationalisé, on a supprimé certains médicaments que le médecin pouvait considérer comme inutiles.
Résultat, en 20 ans, le nombre de médicaments vendus dans les pharmacies a baissé de 20%.
Plus de 24 heures après l'incendie d'un immeuble de Reims qui a coûté la vie à 4 personnes, le procureur François Schneider a précisé ce matin que le feu, d'origine accidentelle, a été provoqué par une trottinette électrique. L'incendie s'était propagé rapidement et massivement. Sur ce point précis, le procureur a fini par apporter une explication.
Le départ du feu se situe dans l'appartement du 4e étage, qui est occupé par une famille d'origine guyanaise, où étaient présents deux adolescents sous la garde de leur beau-père. La mère était partie pour quelques jours voir sa propre mère en Guyane, accompagnée de sa plus jeune fille, ce qui explique qu'on ait pensé, au vu de la composition de la fratrie, qu'il pouvait y avoir une jeune fille qui avait également disparu. Heureusement, ça n'était pas le cas. Le départ du feu semble se situer entre un congélateur et un lave-linge et a été provoqué par un incendie pour l'instant d'origine inconnue, mais accidentelle, d'une trottinette électrique. Les incendies qui sont provoqués par ce type de batterie, qui sont valables d'ailleurs également pour les téléphones ou pour les automobiles électriques, sont extrêmement difficiles à éteindre, puisque en fait les cellules ont tendance à s'auto-entretenir lorsqu'elles brûlent, ce qui explique en réalité la violence et la rapidité de propagation de l'incendie.
Le procureur de Reims au micro d'ici Champagne. Plusieurs bagagistes de Roissy-Charles de Gaulle ont été interpellés. Ils auraient aidé des trafiquants à sortir de l'aéroport chaque mois des dizaines de kilos de cocaïne. Un trafic entre le Brésil et Roissy. 8 personnes ont été arrêtées.
France Inter. Le journal de 13h. Éric Delvaux.
Des entreprises françaises vont produire des drones en Ukraine. C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui l'a annoncé. Il évoque un partenariat inédit, gagnant-gagnant avec Kiev. De quoi rééquilibrer un peu cette guerre asymétrique avec la Russie, se félicite la journaliste ukrainienne Tetiana Ogarkova.
80% de pertes du côté russe, ce sont des pertes dues à l'opération des drones ukrainiens. C'est-à-dire que ce n'est plus la guerre, on a l'artillerie, les chars. Évidemment, c'est présent, mais les drones, ils jouent un rôle majeur, tel par exemple cette opération de toile d'araignée, absolument spectaculaire. Elle a démontré qu'on, tout en ayant moins de ressources que la Russie, en termes de l'arsenal militaire classique, on peut causer des pertes énormes, énormissimes. C'est-à-dire une grande partie de l'aviation stratégique russe a été détruite par des petits drones qui coûtent pas beaucoup. Donc c'est dans cette logique de l'asymétrie qu'il faudrait augmenter en fait la production de drones et que le producteur français vient nous rejoindre. Il va produire des drones ici sur le terrain aussi pour raccourcir le chaîne logistique pour la transport. C'est évidemment la bonne nouvelle.
Elle est jointe, cette journaliste ukrainienne, par nos confrères de France Info. En Syrie, cela fera demain 6 mois que Bachar el-Assad a été mis en fuite. Or, depuis son départ, plus de 6 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur même du pays. Et parmi ces Syriens contraint par le régime de se rendre dans le nord, 600 000 ont fait le choix malgré tout de rentrer chez eux. C'est le cas de cet homme que nos envoyés spéciaux en Syrie, Valérie Crova et Alexandra Bergel, ont rencontré à Homs, à l'ouest du pays.
Il a été l'un des derniers à quitter Homs en 2017, évacué en bus avec les derniers rebelles retranchés dans la ville pour être transféré dans le nord de la Syrie. Revenir à Homs, c'était inimaginable pour lui.
Quand on me disait « tu vas bientôt rentrer chez toi », je répondais « pas avant plusieurs années ».
Abou Ayan vend des épis de maïs devant la mosquée Ibn al-Walid de Homs, à quelques rues de son ancienne maison qu'il a retrouvée.
À terre, détruite. Tout le pays est détruit, pas que ma maison.
Son quartier de Ralidiyé a été bombardé sans relâche pendant 2 ans par l'armée de Bachar el-Assad.
Je n'ai plus qu'une seule fille. Mes 4 autres enfants sont morts ici, à Ralidiyé.
S'ensuit un long silence que seule l'évocation de sa vie à Idlib permet de briser. Idlib, devenu bastion des forces rebelles autour d'un homme.
Le président Al-Shara marchait dans les rues comme un homme normal. C'est pas comme ce boucher de Bachar el-Assad.
Ahmed Al-Shara, l'actuel président de transition, est un héros pour Abu Ayyan.
C'est pas un terroriste. Il a libéré notre pays pour nous protéger, nous les civils. Le président Al-Shara mérite le meilleur. Si Dieu le veut, avec lui notre pays va se
Malgré toutes les souffrances endurées, Abu Ayyan sourit. C'est comme si je renaissais, dit-il.
Valérie Crova, Alexandra Bergel, nos envoyés spéciaux à Homs, à l'ouest de la Syrie. Le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé. Il le dit ce matin, il n'a aucune amertume après la victoire en Ligue des Champions du PSG. Le PSG, c'est le club que Mbappé a quitté l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid. En tennis, ce sera à 15h aujourd'hui, la finale dames entre la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka, et sa dauphine, l'américaine Coco Gauff, dans ce duel féminin. À qui l'avantage? Eh bien, écoutez ce qu'en dit Justine Hénin, quadruple championne de Roland-Garros dans les années 2000.
Ça va être la gestion des émotions de Sabalenka. Je pense que si elle arrive à vraiment garder le cap, je crois quand même que tennistiquement, elle a la possibilité de faire très mal à Gauff. Alors Gauff, elle a montré à nouveau ses qualités de défenseuse, ses qualités athlétiques énormes. Mais on sait que Sabalenka peut parfois se perdre, se précipiter, commettre énormément d'erreurs. Donc il va y avoir tout ce dosage. Et je pense que ça va être très fort en lien avec les émotions. Parce qu'un premier titre à Roland-Garros pour les deux joueuses, c'est majeur pour elles ce qui va se produire sur cette finale. Je donnerai un petit avantage à Sabalenka. Mais attention à la compétitrice hors norme qu'est Coco Gauff.
Et dans le tableau féminin, c'était peut-être hier soir le dernier match de Novak Djokovic sur terre battue à Roland-Garros. La première fois que le Serbe de 38 ans évoque sa retraite aussi explicitement après sa défaite hier soir en demi-finale face à l'Italien Yannick Sinner. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur le retour d'un des dinosaures des jeux de bistrot, le flipper, on dit aussi le pinball. Les neufs comme les anciens flippers, les clubs amateurs sont en vogue dans tout l'Hexagone comme cette association À vous de flipper, c'est son nom, l'une des plus importantes associations situées dans les Hauts-de-France. Parmi ses membres, il y a celui qui se fait appeler le Doc, Didier Fruleux, capable de remettre sur pied n'importe quelle machine. Il possède d'ailleurs l'une des collections de flippers les plus riches de France, plus de 300 flippers chez lui à Saint-Angoël. Reportage.
Son préféré, cette électromécanique des années 60 qu'il caresse en vous parlant.
On dit pinball parce qu'au tout début, le flipper, c'était une planche à clous avec des trous et des aiguilles pour dévier la balle. C'était un jeu d'adresse, ça s'appelait le jeu de bagatelle. Aiguille, en anglais, c'est pin. Donc c'est devenu pinball à cause de ça. Voilà.
On passe derrière.
J'avais donc toute la mécanique. Donc les ingénieurs qui ont conçu ça, c'était vraiment des génies.
Docteur, la première fois que vous avez ouvert le ventre d'un flipper, ça vous a impressionné?
Oui, parce que parfois il y a eu des bricolages qui ne sont pas visibles. C'est parfois un peu long. Ça, c'est la roue qui donne du crédit.
Mais là, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est des fils et des fils et des fils.
Oui, c'est du câblage coton. C'était des petites mains féminines qui câblaient tout ça. Parce qu'elles sont plus précises que les hommes.
Ça, c'est vrai?
Oui.
2 fois 1 franc, 1 partie, 10 francs, 8 parties. Oh, c'est drôle.
Une fois, j'ai acheté un lot de 84 d'un coup.
Pardon?
84 flippers, oui.
84 d'un coup, mais qu'est-ce qui vous a pris?
Bon, ça s'explique pas, c'est la passion. Il y en a, c'est le football, la pêche ou courir après les filles. Moi, c'est le flipper. Celui-là, il est 1962. C'est mon premier. Tous les souvenirs reviennent, rien que le fait de voir. Le flipper, c'est quelque chose de fantastique.
Et ce n'est pas David Levasseur qui dirait le contraire. Le président de À vous de flipper en a fait son métier. Fermez les yeux. Si je vous dis flipper...
On avait 14 ans, on allait en mobilette sur la fête foraine. Il y avait une salle de jeux mobile. C'est là-dessus que j'ai fait mes premières parties de flipper, sur un anti-daous qui est là, qui fait...
C'est gravé là?
Ah oui, moi c'est toujours gravé là. Je pourrais presque dire la couleur du fourgon qui venait à l'époque. Je me rappelle très bien comment c'était, oui.
Aucun joueur n'a oublié.
Ah mais c'est sûr que quand je dis que je suis réparateur de flipper, ils ont des anecdotes. Combien de personnes m'ont déjà dit, ouais, je me rappelle, j'avais un café qui était juste à côté du lycée, on passait nos journées à jouer au flipper. Voilà, sécher les cours. Ouais, tout de suite, c'est, oui, j'ai joué sur telle machine, il y avait ça, il y avait des cibles tombantes ou des choses comme ça.
On sous-estime le nombre de nostalgiques.
Bah oui, je pense.
Suffit d'ouvrir le carnet de commandes de Locaflip.
Il y a pas mal de cafetiers qui m'appellent pour avoir un flipper, remettre un flipper dans leur bar, parce qu'ils ont la demande, tout simplement. Ça attire du monde. Il y a quelques temps, les flippers revenaient essentiellement chez les particuliers, mais la tendance maintenant est de retrouver des flippers dans les cafés.
Comment vous l'expliquez ça ?
Bah, je pense que finalement, les gens, ce qu'ils retrouvent dans le flipper, c'est le côté convivial. C'est pas comparable à une console de jeu où tu es seul devant ton téléviseur. Là, on peut jouer jusqu'à 4 personnes en même temps. Il n'y a pas photo. C'est quelque chose qui vit, hein, un flipper.
L'extra balle dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien le ciel va rester variable cet après-midi.
Oui, comme un ciel de traîne généralisé, vous voyez, avec encore beaucoup de passages nuageux, des averses, des éclaircies. Elles seront quand même un petit peu plus nombreuses que ce matin, surtout entre la vallée du Rhône et le Val de Saône. Ce qui va aider ces éclaircies à se montrer un petit peu, c'est le vent de nord-ouest, hein, qui va bien souffler sur les trois quarts nord du pays. Mais on n'échappera pas à quelques coups de tonnerre encore sur les Alpes, ou plus au nord entre la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Cela sera en revanche beaucoup plus généreux sur les côtes méditerranéennes et en Corse.
Et sans surprise, hein, avec ces perturbations qui s'enchaînent, les températures sont en baisse.
Oui, on sera même parfois en dessous des normales de saison. 16 degrés à Cherbourg, 18 à Lille, 20 degrés à Paris ou 21 à Strasbourg. Sous le soleil, on va conserver des valeurs estivales avec 25 degrés à Toulon, 27 à Marseille ou 28 degrés pour Nîmes et Ajaccio.
Les prévisions de Céline Dacosta.